I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Touchdown Actu. On continue à parler draft, on continue à aller position par position. Et aujourd'hui, on a peut-être la meilleure position de cette draft. En tout cas, il y a un débat avec la classe de Edge dont vous ont parlé Jean-Michel et Tonio. Aujourd'hui, on va parler cornerback et pour m'accompagner, on traverse la Clément puisqu'on rejoint... Un ancien que les habitués connaissent, Kevin Zermatten. Bonjour à toi.
Bonjour à toi, bonjour à tous. Plaisir de faire un peu mon retour. Ça fait un petit moment que j'ai pas été là, mais c'est vrai que la draft, c'est toujours un moment, bah, comme je crois que c'était Tonio qui disait, un moment qui nous plaît en tout cas à l'équipe draft particulièrement. Donc c'est assez cool. Et puis bah, c'est vrai que une grosse classe de cornerback, donc un plaisir d'en parler.
Et oui, tu es revenu en envoyant un fax où il était marqué « I'm back ». Hein, évidemment, toute ressemblance avec une situation déjà connue serait fortuite. Écoute, comme je disais, on avait facilement 15 joueurs qu'on aurait pu entrer dans cet épisode. Vous n'entendrez pas parler aujourd'hui de Eli Ricks, de Emmanuel Forbes, de Garrett Williams, de Trevius Hodge Tomlinson, de Tyrek Stevenson, de Jaden Jones et d'autres. On va avoir les pastilles, hein. On aura 32 pastilles, donc on aura le temps de parler de l'intégralité des cornerbacks un à un. Mais il a fallu faire un choix. Et pour notre tier 1, j'ai presque envie de dire que c'était peut-être le tier le plus facile, en tout cas qui semble de plus en plus se dessiner. On a 3 joueurs qui sortent un peu du lot. Je vais te laisser commencer par un joueur qui s'appelle Christian Gonzalez, qui vient de Oregon. Et qui est un peu le joueur qui, tout au long de la saison, a grimpé les mocks. Et là, maintenant, on le voit cornerback numéro 1 ou numéro 2 à peu près partout.
Oui, alors c'est vrai qu'avant cette année, je pense pas beaucoup de monde l'avait vu venir. Déjà parce qu'il était à Colorado, dans un programme qui était un peu en difficulté. Je sais pas s'il serait parti de Colorado avec un certain Deion Sanders qui est maintenant le head coach, étant donné son poste. Mais c'est vrai que bah, il a vraiment grimpé, comme tu l'as dit. Il a même explosé, je pense qu'on peut le dire. C'est un joueur qui a des attributs physiques assez incroyables. C'est un sprinter de base. Je crois que si, bah, pour les gens qui connaissent un petit peu l'athlétisme, il a dû claquer quelque chose comme un 21,60 sur 200 mètres dans le championnat d'athlétisme du Texas. Donc c'est quand même un sacré athlète. Il a une détente incroyable. Enfin bref, vraiment au niveau athlétique, il n'y a pas trop de questions à se poser. Je sais que le jeu des comparaisons est toujours un jeu assez compliqué, mais ça parle quand même bien aux gens. Donc c'est aussi important de s'y prêter à ce jeu-là. Il me fait penser un tout petit peu, au niveau du gabarit, à Aqib Talib, parce que il y a vraiment cette, comment dire ça, il est très long, il est athlétique dans sa façon de jouer. Pour moi, ça va être une des stars du combine, même si je suis pas le premier fan de ce genre de petit exercice, mais en tout cas, il risque de faire des vagues. Sa vitesse, bah, comme j'ai dit, c'est incroyable. Mais malgré tout, il a quand même des qualités techniques. C'est pas forcément quelqu'un qui justement se fait avoir, comme on dit, au-dessus de l'épaule. Il a la capacité de localiser les ballons. Il sait contourner la tête. Il est fluide dans ses déplacements. C'est un solide plaqueur, et ça, je pense que c'est très important que justement il montre des qualités techniques en plus de ses attributs physiques. Après, c'est clair que, comment dire ça, il y a quand même qu'une année de production. Il a réalisé sa première interception avec Oregon, il n'en avait jamais réussi du côté de Colorado. Il est plus à l'aise en homme qu'en zone, donc c'est quelque chose qui est coachable, donc c'est pas trop, enfin, c'est pas un énorme souci. Il a un peu tendance des fois à se faire avoir sur des double moves, donc un peu presque trop réactif parfois. Et puis, il est un peu moins à l'aise contre des receveurs qui sont vraiment physiques. Moi, ça m'intéresserait par exemple beaucoup de le voir contre un Quentin Johnston qui est sur cette draft par exemple. C'est vrai que je me suis imaginé ça en préparant cette émission. S'il y avait un espèce de underclassman ball, je pense que ça aurait été un joli duel. Et puis, ouais, c'est clair qu'après, on le draft, en tout cas dans les mocks jusqu'à maintenant, beaucoup sur son potentiel. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, de toute façon, il y a une progression qui est nette. Hein. Tu en as parlé. Les plaquages, il en loupait 12%, il en loupe 4%. Les interceptions, il n'en avait pas faites, il en a fait 4. Je pense que ce qui est important, et c'est un peu ce que tu disais, c'est de se dire que c'est un joueur presque parfait, mais il lui manque un peu l'instinct du tueur. Un peu comme, si tu veux, McDuffie l'année dernière, bon, qui n'est pas du tout le même gabarit. Là, je ne compare pas du tout en termes de gabarit. Mais ces joueurs solides, constants, mais où tu te dis, faut quand même avoir un peu l'instinct du tueur, faut quand même aller un peu plus au mastic pour aller choper cette balle-là. Parfois, il est un peu trop facile. Donc, c'est vrai que c'est d'un côté, c'est frustrant. D'un autre côté, tu te dis, mais attends, il est à ce niveau-là et il a encore une marge de progression qui est claire. Donc, tu te dis vraiment, je peux en faire un joueur encore meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Et ça, c'est indispensable. Parce que tu as certains joueurs où tu les vois bons, mais tu te dis, OK, il a atteint sa limite et c'est fini. Lui, clairement, il a un très, très gros potentiel. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais il y en a un autre que j'aime encore plus, qui s'appelle Devon Witherspoon, qui vient de Illinois, des Fighting Illini. Qui est un cornerback lui aussi très bien proportionné en termes de dimension physique, un tout petit peu plus petit que Christian Gonzalez, mais globalement pas de problème là-dessus. Cette année, pour vous donner juste des stats, il a encaissé 22 réceptions sur 63, il a encaissé 206 yards sur l'ensemble de la saison, il a fait 3 interceptions pour 0 touchdown encaissé. Ce sont des stats à la Sauce Gardner. J'exagère un peu parce que Sauce Gardner, c'était même sur toute sa carrière universitaire qu'il n'avait jamais encaissé un touchdown, je crois, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, Devon Witherspoon, moi, j'aime ce joueur parce que il est dans le même moule que Gonzalez. C'est-à-dire que oui, c'est un bon joueur en couverture, excellent joueur en couverture, mais c'est aussi un très bon défenseur contre la course. Globalement, au niveau du plaquage, il est très bon aussi, très réactif, un très bon QI football. Mais là encore, quand je dis un peu similaire à Gonzalez, finalement, une seule grosse saison. Parfois tellement réactif, tellement sûr de lui, que lui aussi peut se faire avoir sur des doubles moves parce qu'il veut anticiper, il veut tellement anticiper que finalement, il se retrouve sur les fesses. Donc, moi, je trouve que c'est un peu les mêmes limitations d'une certaine manière, avec un petit truc un peu gênant aussi. Attention à pas te faire traîner les mains. Un peu trop tendance à laisser les mains sur le maillot. Et on le sait, on se souvient du Super Bowl, malheureusement. Quand on laisse traîner les mains sur le maillot, parfois, on est flagué pour holding. Ce qui peut faire mal à une équipe. Qui peut lui faire perdre le Super Bowl. Kevin, est-ce que tu partages cette analyse sur Devon Witherspoon?
Alors, complètement, ouais, c'est vrai que c'est aussi un peu un de mes chouchous. C'est vrai que j'ai eu pas mal de plaisir. Déjà, alors, son année de production s'explique aussi un petit peu par la renaissance, on va dire, d'Illinois. C'est vrai que quand tout va un petit peu mieux, forcément que certains joueurs performent automatiquement mieux. Moi, ce qui me plaît aussi chez lui, c'est que, de ce que j'ai lu par rapport à. Je ne le connais pas personnellement, hein, forcément, mais ça a l'air d'être un vrai leader. Donc pour moi c'est un joueur qui va beaucoup apporter peut-être à une jeune équipe, un jeune secondary, quelque chose comme ça, Il a ce petit truc en plus, j'ai l'impression, qui va justement ben, lui permettre de vraiment bien s'intégrer en NFL. Et puis avec ses qualités, c'est clair qu'on va pouvoir clairement le voir assez haut dans cette draft, je pense.
Et le dernier de ce trio, lui aussi physiquement a tous les attributs. Il s'appelle Joey Porter Jr. Alors, si vous êtes des vieux comme nous, vous avez connu papa, hein, qui était d'un autre gabarit puisque c'était un edge. C'est pas comme Surtain ou autres qui ont pris le même poste, c'est un peu différent. Donc, de Penn State. Alors, lui, on l'a un peu plus vu venir que les deux autres. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une hype qui était là déjà l'année dernière. Il a fait une saison moyenne, on va dire. En tout cas, dans la production, il y a zéro interception. Alors certes, il ne prend que 143 yards, mais c'est un peu comme Sauce Gardner l'année dernière. Il est tellement peu visé qu'on ne sait même pas si on doit prendre la production en compte. S'il y a 30 passes en sa direction sur la saison. C'est-à-dire même pas deux par match, donc c'est très difficile. Est-ce que finalement, ce qui fait de lui le dernier joueur de notre terrain, c'est que quand tu regardes son envergure, ses dimensions, sa vitesse, etc., c'est presque un cornerback créé dans un laboratoire?
Alors, on n'est pas loin de ça. Je vais déjà reprendre un petit peu la question que tu posais par rapport à la production. Ce qu'il faut savoir, en fait, bah, c'est que ouais, on a vraiment arrêté de cibler, même après le premier match contre Purdue, où il a été ciblé, je crois, 6 fois et il a fait 6 passes déviées. Donc, ça a été vite, vite classé. Il finit la saison avec 8 passes déviées, donc c'est-à-dire qu'il aurait dévié 2 sur le reste de la saison. Donc, en gros, on a un petit peu oublié son côté, et puis ça montre quand même que justement, bah, il devait pas être loin des receveurs sur le reste de la saison. Donc c'est clair que au niveau production, je pense qu'on peut oublier ça. La saison n'est pas exceptionnelle peut-être comme celle de 2021, mais il y avait clairement une raison à ça. Et puis voilà. Bah, après, je reviens aussi sur le papa. Je pense que les Américains ont bien aimé parler de son ADN. Ils aiment bien ça, donc. On va parler leur priver de leur petit plaisir. Et c'est clair que ben il a aussi certainement une culture du foot qui vient de là. Hein. Donc son intelligence, il doit l'avoir acquise à quelque part. Pour moi, c'est vraiment un cornerback extrêmement physique. J'aime beaucoup ce genre de cornerback. Moi, il me rappelle un petit peu un Marlon Humphrey, par exemple, qui est grand, qui est costaud et qui, ben, peut-être, oui, il va se faire avoir quelquefois. Mais il est très très difficile à bouger sur la ligne de scrimmage, donc c'est déjà un moment où on ne fait pas de séparation, où le receveur est coincé. Malgré ça, ses capacités physiques et on va dire de combat, je le trouve assez fluide. Aussi, le QI football est assez intéressant. Il est capable justement de trouver ce ballon dans les airs pour le dévier quand il en a besoin, ou l'intercepter s'il y a besoin. Moi, j'ai pas de problème avec ce côté-là. Pour moi, il va convenir à tous les systèmes en NFL, il est à l'aise un petit peu dans tous les domaines. Et puis, ouais, c'est un vrai pot de colle pour moi. Il a vraiment ce physique qu'il faut pour un cornerback. Et puis, c'est vrai que justement, le seul, bah, c'est un pot de colle, je viens de le dire. Le seul souci, c'est que c'est un petit peu trop un pot de colle. Parfois, il a été quand même pas mal pénalisé. Et puis, il va devoir raffiner un petit peu sa technique par rapport à ça, justement, pour éviter de trop mettre les mains, justement, tu disais, sur un receveur et se faire potentiellement pénaliser bêtement. Donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Je pense qu'il y est quasiment. Il va servir à une équipe en semaine une. Mais il y a toujours, comme tous les prospects, probablement, des petites choses à revoir.
Oui, c'est vrai que son indiscipline. Alors, cette année, il a été pénalisé que 3 fois, mais on l'a dit, très peu ciblé, etc. Il avait été pénalisé 10 fois quand même l'année dernière. Donc, c'est en effet quelque chose à suivre, encore une fois, avec des volumes qui étaient différents. Ce tiers 1 étant refermé, je vais me permettre d'ouvrir le tiers 2. Et on a parlé de joueurs qui ont des dimensions parfaites, etc. Du coup, je vais parler d'un joueur qui justement possède le seul défaut, entre guillemets, qui est de ne pas avoir les dimensions parfaites. C'est Clark Phillips. Donc Clark Phillips, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un podcast en début d'année. C'est un peu, si vous voulez, le syndrome, comment s'appelle-t-il, Asante Samuel Jr. C'est-à-dire un joueur absolument extraordinaire en termes de production, un QI football hors du terrain, rapide, agressif sur la balle, capable de couvrir. Petit problème au plaquage de temps en temps, sans que ça soit non plus, selon moi, catastrophique. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas améliorer, quoi qu'on fasse, c'est la taille et le poids. Et la question se posera toujours avec lui de faut-il qu'il joue à l'extérieur ou faut-il qu'il joue à l'intérieur. On a vu qu'un Asante Samuel joue finalement à l'extérieur. Moi, je pense que Phillips a largement des capacités, on va dire, intellectuelles et également des capacités physiques pour jouer à l'extérieur. Mais on connaît les franchises NFL, on sait qu'il y en a certaines qui vont, entre guillemets, le mettre de côté uniquement à cause de ses dimensions physiques. Et ça risque d'être un des débats. C'est typiquement le joueur qui, pour moi, a un talent de premier tour, mais va finir au second. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que ça va être une bonne affaire, mais ça risque de finir comme ça aussi. Est-ce que tu as à peu près la même analyse sur Kirk Phillips?
Alors, clairement, en fait, bah, déjà, premièrement, la classe énorme de cornerback le dessert un petit peu par rapport à ça, parce qu'on a tellement de choix que finalement, peut-être que le joueur qui a ce défaut de taille et de gabarit, bah, en fait, il va passer après les autres. Donc, c'est clair que ça va le desservir un petit peu. Tu disais que c'était un gros playmaker. Il faut savoir qu'il a fait 9 interceptions en carrière, donc 4 pick six. Donc, c'est quand même vraiment un ratio assez incroyable. Et puis,
Lui, c'est un tueur. Ouais, lui, voilà, on peut dire que c'est un tueur.
Au niveau de la combativité, au niveau du QI football, au niveau de plaquer tout ce qui bouge. Alors, comme tu disais, il y a quelques petits problèmes pour des fois se défaire des blocs. Puis justement, bah, du coup, rater quelques plaquages. Mais il va se battre, pour dire ça un petit peu trivialement, il va crever sur le terrain. Il va être là pour vraiment essayer de, coûte que coûte, de faire un big play ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais c'est vrai qu'il va être un petit peu desservi par cette énorme place de cornerback.
Écoute, je vais te laisser la parole avec un nouveau freak athlétique. Peut-être, le meilleur athlète de tous ceux dont on va parler. Joueur dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'avant la saison, il était projeté top 10, top 15, même au milieu de saison. Joueur qui a chuté un petit peu, tout étant relatif par ailleurs. C'est Kelly Ringo de Georgia, donc la terrible défense de Georgia. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce joueur qui était vu comme l'avenir du poste, le numéro 1, même si ça ne se passe jamais, hein, évidemment, comme prévu avant le début de la saison, qu'est-ce qui fait qu'un tel potentiel athlétique puisse avoir reculé au point de se retrouver, entre guillemets, seulement dans le tier 2?
Bah, à ce jour, à l'instant T, c'est clair que c'est un petit peu une énigme. L'explication, c'est que sa saison 2022 a été moins bonne que sa saison 2021. Après, je veux quand même, et je pense qu'on est un petit peu tous dans ce cas-là, dans la team draft, tempérer un petit peu, comme tu l'as dit, ce souci, parce que c'est vrai que oui, il fait moins de production, malgré le fait que c'est une recrue 5 étoiles, que c'était le meilleur cornerback de sa classe quand il a été recruté à Georgia, qu'il a fait une saison 2021 absolument incroyable en réussissant le pick six qui fait gagner, qui fait classer le match par Georgia contre Alabama en finale nationale. Enfin, bref, tout était absolument parfait après 2021. Et puis, c'est vrai que 2022 a été un petit peu plus difficile. Il s'est fait un petit peu avoir. Il a fait des erreurs. Mais il a quand même fait aussi un big play contre Tennessee, qui justement montre que dans les grands matchs, il a quand même encore, il s'est encore joué. Et puis, moi, je compare un petit peu son cas, peut-être, alors pas du tout au même poste, mais à celui d'un autre masque qui était aussi à Georgia, qu'on avait vu comme le meilleur tackle de la draft et tout ça. Puis ça, finalement, sa dernière saison universitaire avait été un petit peu moins bonne. Et puis finalement, c'était quand même le premier tackle, qui avait été drafté. Alors, je pense pas que Kelly Ringo sera le premier cornerback drafté, même si je tomberai pas de ma chaise si c'est le cas. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un athlète incroyable qui est à l'aise en homme-homme, en zone, qui a un bon instinct, qui a un potentiel illimité, on va dire quasiment, mais qui s'est fait avoir justement sur des changements de direction, qui est justement contre des bons coureurs de tracé. Coucou Marvin Harrison, comment dire ça? Bah, il a un peu plus de peine et ça s'est plus vu en 2022. Mais il y a aussi le fait qu'il a été moins ciblé. Donc c'est un petit peu un ensemble de choses qui fait que sa saison 2022 est en dessous et qu'il devra plutôt montrer son visage de 2021 en NFL pour vraiment avoir un gros impact.
Ouais, après Marvin Harrison, et on en parlera évidemment, Marvin Harrison, fils d'eux, hein, lui aussi, on en reparlera pour la draft 2024, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de défendre. Il se pourrait même qu'il soit premier
C'est vrai.
de mon big board actuel pour la classe de l'année prochaine. Non, je suis d'accord avec toi, hein, globalement. Je serais surpris, moi, qu'il soit le premier choisi quand même, encore une fois, parce que c'est une classe assez dense. Encore une fois, il y a des équipes qui aiment bien miser sur le potentiel physique, ce qui fait qu'il ne tombera pas bien bas non plus. Mais c'est vrai qu'il va exploser le combine. Ça, je pense que c'est à peu près clair. C'est plus sur le terrain. Et du coup, je pense que pour ce genre de joueur, les interviews vont être importantes aussi. Voir s'il est lucide sur sa saison, s'il est lucide sur ce qu'il doit améliorer. S'il se rend compte, etc., de tout ce qui lui manque, tu vois, parce qu'il pourrait très bien dire non, mais moi, attendez, je suis double champion national, de quoi vous me parlez? Donc, faudra voir comment il passe en interview, mais bon, c'est clair que le potentiel est là. Pour ma part, je vais vous parler d'un autre joueur qui était assez haut quand même en début de saison et qui aujourd'hui divise un peu, c'est Cam Smith de South Carolina. Bon, clairement, joueur agressif, intelligent, réactif, ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, tout le match, il va harceler son vis-à-vis et il est extrêmement bon. Un peu petit, un peu léger, toujours pareil, hein, peut-être que ça peut comment dirais-je, lui le desservir. Moi, il y a deux choses qui m'ont un peu embêté. Bon, déjà, c'est qu'il est souvent blessé. Alors oui, pas des grosses blessures, mais ce type de joueur qui a toujours une cheville, un machin, un truc qui va pas bien, bah, c'est rare que ça s'arrête en NFL, quoi. Tout le monde n'est pas Frank Gore et ne se fait pas deux genoux en université pour jouer 20 ans en NFL. Je veux dire, c'est quand même plus exception que la règle. Et je trouve que ce qui me limite un peu chez lui aussi, c'est sa vitesse pure. Il se fait prendre assez régulièrement sur ce. Pas, genre, pas sur les 5-10 yards, pas sur les tracés courts où il a une agressivité, une réactivité qui fait qu'il sera là, mais plus sur des tracés de 20-30 yards, tu vois, où ça me gêne un peu plus. Et c'est typiquement le joueur, pour moi, s'il explose en NFL. Genre exploser Pro Bowl, All Pro, enfin Pro Bowl ne veut plus rien dire, mais All Pro ou quoi, ça sera en slot corner ou en safety. Lui, je vois vraiment, à cause de son déficit de vitesse, je le vois, et de taille, je le vois vraiment pas jouer à l'extérieur. Est-ce que toi, tu l'imagines aussi dans un rôle un peu hybride, de touche à tout dans la ligne arrière?
Moi, je pense que ça peut être une bonne solution. Après, on sait maintenant que les systèmes défensifs sont très évolutifs. Donc, il n'y a pas vraiment, il y a toujours une place pour un joueur comme ça en NFL. Ça, c'est, y a aucun doute là-dessus. Moi, j'aime beaucoup son activité. Et c'est vrai que justement, sur les zones courtes et intermédiaires, il est vraiment très actif et très difficile à bouger déjà, même malgré son petit gabarit, on va dire. Je le trouve bon sur les lignes de scrimmage, justement, où il laisse pas vraiment de la vaut chapitre à son vis-à-vis. Après, c'est vrai que ben il y a eu quelques petites pénalités, justement, ben, peut-être aussi sur la profondeur où il s'est fait déborder. Il va falloir lisser un petit peu tout ça. Je trouve que c'est aussi assez un bon plaqueur. J'ai pas vu de red flag par rapport à ça. Et puis ben en fait je voulais soulever le fait que on en est au je sais plus 5e-6e cornerback et que il y a quand même pas mal de bons plaqueurs et de relativement bons techniciens, je trouve, dans cette classe. Et puis, bah, c'est à souligner parce que c'est pas toujours le cas.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a quand même un changement. On a l'impression que ces joueurs qui plaquaient avec l'épaule en avant, etc., on sent que l'entraînement a un peu changé en université. Et certains en NFL feraient bien de s'en inspirer aussi, d'ailleurs. On ne donnera pas de nom, évidemment, mais le Minneapolis Miracle n'existerait pas si un certain safety savait plaquer. Mais
Bien
bon,
sûr.
c'est un autre débat. Écoute, on arrive. Alors là, ce n'est pas notre tier 3, c'est notre coup de cœur. Comme j'ai dit, il y avait au moins 15 joueurs qui pouvaient rentrer. Du coup, je t'ai demandé quel est ton coup de cœur. Et pour le coup, tu m'as un peu surpris parce que c'est un joueur que j'attendais pas forcément comme réponse. Et tant mieux, parce que justement, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent le découvrir. Moi, personnellement, je n'avais pas du tout fait sa revue pour l'instant. C'est Darius Rush. South Carolina, lui aussi. Explique-nous ce qui fait que ce joueur est ton coup de cœur de cette classe.
Ah, comment dire ça? Moi, c'est vrai que je parie rarement, en tout cas personnellement, sur les joueurs justement qui sont forts physiquement et un petit peu, qui ont un petit peu un déficit technique. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aime bien aussi voir ce qu'il y a de l'autre côté d'un bon cornerback et qu'est-ce qu'il en fait. Un peu les sidekicks qu'on oublie, on va dire. Du coup, il était à l'opposé de Cam Smith en université. C'était un receveur en high school, donc c'est un gars qui a des mains relativement sûres, peut-être pas assez sûres pour être receveur, mais assez sûres pour un cornerback. Il a, on va dire, illuminé un petit peu le Senior Bowl. De nouveau, le processus pré-draft, c'est quelque chose de difficile à évaluer, mais malgré tout, il a fait sa petite place. Pour moi, c'est, on va dire, un quatrième tour aujourd'hui, mais de nouveau, qualité physique est égale à monter dans les mock drafts et peut-être même dans la vraie draft. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très, moi je le trouve très agile en fait pour sa taille. C'est un grand gabarit, mais il est fluide dans ses déplacements. Comme je disais, il a des bonnes mains. C'est plutôt un joueur qui va être probablement un joueur de rotation au départ, qui est plutôt à l'aise en zone et qui justement, le déficit technique qu'il a, qu'il va devoir combler, en fait, il va peut-être lui permettre d'être meilleur en homme à homme. Et puis, de devenir potentiellement un titulaire en NFL. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ces joueurs que peut-être on regarde moins parce qu'il est, on va dire clairement, une star, en tout cas à son poste, à l'opposé de où il joue. Et puis, en fait, on l'oublie un petit peu parce qu'on regarde, entre guillemets, que Cam Smith de l'autre côté. Et en fait, Darius Rush a fait une bonne saison. Et puis, il a du potentiel, justement, il a le potentiel de devenir un titulaire assez solide en NFL. En ayant plus d'expérience, parce que c'est vraiment un joueur brut. Comme je disais, il est devenu cornerback à l'université. Il était receveur. Il était censé être receveur à South Carolina. Et du coup, je pense qu'il a vraiment une belle marge de progression.
Bah, de toute façon, devenons tout de suite amis avec tous nos auditeurs qui jouent au poste de cornerback. Un cornerback est forcément un joueur qui était trop mauvais pour être receveur. C'est comme ça d'ailleurs qu'on sélectionne les cornerbacks en université. Non, je rigole un peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui pour le coup, ont connu ce parcours. Écoute, moi, je vais te parler d'un joueur qui peut postuler pour plus haut, hein, puisque je pense qu'il peut postuler au second tour, voire au premier si ça s'enflamme. Mais en tout cas, au second tour, c'est Deontay Banks de Maryland. Joueur qui a subi une grave blessure en début d'année 2021, si je ne dis pas de bêtises. On s'est demandé un peu comment il allait revenir et finalement, il est revenu très très bien. Même j'ai envie de dire presque mieux que jamais. C'est un joueur qui a tous les attributs physiques, athlétiques que vous souhaitez. C'est pas le joueur le plus rapide de l'histoire, ça c'est vrai. Il nécessite encore un peu de raffinement technique. C'est un joueur qui conviendra pas à tout le monde, mais si vous avez un schéma qui joue beaucoup en presse, par exemple, c'est un joueur qui peut totalement déstabiliser son vis-à-vis. Dans les premiers yards, dans cet affrontement physique de début de partie. Alors oui, si vous le faites jouer en soft zone, bon, son déficit de vitesse fait que il prendra sûrement des réceptions et ça sera sûrement pas fait pour lui. Donc c'est clair que je vois pas jouer dans une équipe comme les Niners ou les Vikings. C'est pas des choses que j'imagine. Par contre, dans des schémas qui sont beaucoup plus agressifs, là, il peut s'impliquer. Donc, voilà, un joueur, un haut potentiel, mais qui ne conviendra pas à tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans d'autres drafts, il aurait pu être premier tour. Mais il y a tellement de talent au poste de cornerback que on va dire, de par le déversement, on ne peut pas prendre 9 cornerbacks au premier tour. Donc, il tombera sûrement au deuxième, dans le pire des cas au troisième. Mais ça reste un très bon ajout.
Non, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. Bah, comme tu dis, il a un déficit de vitesse. Mais malgré tout, si on n'arrive pas à s'en défaire sur les 5-10 premiers yards, bah, souvent le ballon, il est déjà parti. Donc on va peut-être pas lancer dans son, comment dire ça, dans sa zone, si justement le receveur a pas réussi à faire de séparation. Et justement, faire de la séparation contre lui, c'est assez difficile. C'est clair que c'est un corner press. Il va avoir beaucoup plus de peine si on lui demande de faire de la zone, comme tu l'as dit. Mais oui, je suis totalement d'accord avec ton analyse. Et puis c'est aussi quelqu'un qui me plaît beaucoup et que je pense qu'il doit être sélectionné par la bonne franchise pour vraiment avoir une carrière qui soit, on va dire, épanouie, que ce soit au niveau production et même au niveau de ce qu'il sait faire.
Bon, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour des cornerbacks. Encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir encore et toujours. Comme je l'ai dit, dans les pastilles, on aura 32 épisodes. On aura plus de 200 joueurs qui vont passer à Moinette. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez votre dose de cornerback. Mais c'est vrai que là, on a une classe. Si vous avez besoin de cornerback, honnêtement, même si votre équipe n'en prend pas au premier tour, même si votre équipe n'en prend pas au second, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de talent. Vous pouvez trouver des beaux talents au troisième et ça va être important.
C'est clair que s'il y a une année pour choisir quelques cornerbacks un peu plus tard et pour les équipes qui sont déjà fortes, justement, de mettre la profondeur dans les équipes, c'est la bonne année.
Bah, si vous avez un vétéran qui est là depuis longtemps, dont vous savez que dans un an ou deux, il n'est plus là, tu peux mettre au chaud un petit joueur à former derrière. Ça paraîtrait pas déconnant. Merci Kevin, on a fait le tour. Merci à tout le monde pour votre soutien et on revient dans 2 jours pour vous parler des running backs. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.